Bonjour à tout le monde, à ceux que je n'ai pas pu saluer. Alors j'aimerais qu'on prenne un passage dans 2 Corinthiens chapitre 10, un passage connu dans 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissante par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc voilà un passage qu'on connaît bien, n'est-ce pas, et que j'aimerais développer avec vous aujourd'hui en prenant deux histoires, deux épisodes, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau, qui illustre d'une certaine façon cette vérité qui est proclamée ici dans 2 Corinthiens 10. Mais vous voyez qu'il y a un mécanisme ici qui est décrit par l'apôtre Paul, qui lui était un lutteur, comme il a été dit ce matin, un homme qui était intégriste, qui savait qu'il pouvait convaincre les gens par la force, qu'il pouvait discuter, argumenter, et puis si on ne l'écoutait pas, il pouvait utiliser la force. Il avait utilisé ce système pendant des années auparavant, mais il a rencontré sur le chemin de Damas la puissance de Dieu qui a transformé sa vie et qui l'a fait rentrer dans une autre façon de voir les choses. Ce n'est pas qu'il a changé d'avis en disant « Oh, je trouve que le raisonnement de Dieu est meilleur ». C'est que la puissance de transformation de sa vie l'a amené à croire, l'a amené à constater que c'est ainsi que les choses changent. C'est lorsqu'il y a la puissance de Dieu dans sa vie, dans la vie des hommes et des femmes, que les raisonnements changent, que les forteresses tombent. C'est la puissance de Dieu qui fait cette œuvre-là, et c'est pas le raisonnement humain, c'est pas les discussions, c'est pas la force. N'est-ce pas, vous avez ce passage dans Zacharie qui dit « Ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. » Et c'est à l'esprit de Dieu, c'est dans la communion avec l'esprit de Dieu que l'on peut obtenir, que l'on peut observer ces choses-là. Et le premier passage que j'aimerais qu'on considère, c'est dans Actes 12. Le premier récit, c'est dans Actes 12 que vous lirez chez vous, si vous voulez bien. C'est une merveilleuse histoire, c'est une histoire intéressante, encourageante, n'est-ce pas? C'est Hérode qui met Simon-Pierre en prison. Et vous allez remarquer dans le début du chapitre qu'il y a une caractéristique très particulière de Hérode, c'est que Hérode savait déjà que Dieu était puissant. Il le savait parce qu'il a arrêté ce pauvre pêcheur de poissons, de Pierre, qui était un homme simple, du peuple, sans instruction, et il le fait garder par 16 soldats. Alors, moi, ça me plairait pas mal, pas d'être emprisonné, c'est pas ça, je suis pas en train de dire ça, mais je veux dire qu'on considère que pour me garder, on a besoin de 16 policiers, d'accord? Parce que ça paraît étrange, n'est-ce pas, que quelqu'un aussi faible que Pierre soit considéré ainsi. Et donc, il a fallu 16 personnes pour le garder, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe dans la suite de l'histoire? Eh bien, il est emprisonné et dans la prison, il dort la nuit. Alors, je trouve ça déjà extraordinaire parce que, comme Jésus dans le bateau, dans la tempête, au lieu de s'alarmer, au lieu de dire « Voilà, quelle injustice! C'est pas juste, ou bien je suis maintenant... » prisonnier, je ne peux plus parler, je ne peux plus prêcher l'évangile, je suis limité, je suis réduit. Au lieu de se révolter, au lieu de s'irriter, eh bien, il dort, voilà. Et je pense que c'est des bonnes choses que le chrétien doit apprendre, n'est-ce pas, à rentrer dans ce repos spirituel, ce repos du cœur, ce repos intérieur qui est décrit dans Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 3 aussi, où on apprend à dormir, à se reposer et à ne pas s'alarmer. Et donc, il est là en train de dormir quand il se passe quelque chose d'extraordinaire. Ce que Hérode redoutait, certainement. parce que s'il avait mis 16 soldats pour garder un seul homme qui n'était pas dangereux du tout, eh bien, c'est qu'il craignait qu'effectivement Dieu fasse un miracle. Et il a pensé que 16 soldats, ça devrait suffire pour lutter contre Dieu. Et voilà qu'il y a un ange qui vient dans la prison et qui réveille Pierre. Et les chaînes qui tombent de Pierre. Alors ça, c'est au verset 7, c'est important à partir de ce moment-là, je pense, pour illustrer la prédication. Donc l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement, lève-toi promptement. » Et je pense que cette parole-là, c'est une parole de Dieu que Dieu dit souvent. C'est pas qu'il l'a dit bien sûr à Pierre, mais il le dit souvent à nous, n'est-ce pas? Il le dit souvent à ses enfants. Lève-toi promptement. Ne sois pas toujours à réfléchir sur ce que tu dois faire. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que c'est Dieu qui veut cela? Lève-toi promptement. Combien de fois Jésus a dû dire lève-toi, n'est-ce pas? Lève-toi et marche, il a dit au paralytique. Parce que le paralytique était lié par la maladie, il était lié par l'incapacité à faire les choses. Et Jésus lui dit lève-toi, mais bien sûr il lui donne la puissance de le faire, n'est-ce pas? À Ézéchiel, il a dit, tiens-toi sur tes pieds. Il est dit que l'Esprit a saisi Ézéchiel pour qu'il puisse se tenir sur ses pieds, n'est-ce pas? Dieu ne dit pas, lève-toi, mais je sais bien que tu ne pourras pas le faire. Il donne la puissance pour le faire. Il a dit à Simon-Pierre, lève-toi promptement. Il faut que tu rentres dans ce que j'ai prévu pour toi. Et il lui dit, l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et là, je vois, même si c'était réel, c'est parce que simplement il avait enlevé ses sandales, il avait enlevé sa ceinture pour dormir, certainement. Mais je vois bien sûr là deux choses qui me font penser aux armes de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? La ceinture de la vérité. Et on a mentionné ça ce matin déjà, que Dieu veut, et vous lisez ça dans Éphésiens 6, que l'on soit revêtu de la ceinture de la vérité, qu'on ait la vérité pour ceinture, que l'on ait... Alors, il y a la vérité, il y a d'autres endroits où c'est d'autres termes qui sont associés à la ceinture, mais voilà ce que Dieu veut que l'on ait, que l'on soit saint, que l'on soit vêtu, que l'on prenne ce qu'il a donné, parce qu'il a donné les armes de l'esprit qui sont les armes efficaces pour vivre et pour marcher, pour se lever promptement. Mets ta ceinture et tes sandales. Et les sandales que Pierre avait mises à ses pieds sont les sandales qu'il avait, mais il avait aussi d'autres sandales qui sont mentionnées dans Éphésiens 6. C'est les sandales que donne le zèle que donne l'évangile de paix, n'est-ce pas? Et le zèle de porter l'évangile est animé, Simon-Pierre, qu'il n'a pas hésité à faire ça. Et ce matin, je crois que le Seigneur nous demande ce genre de combat. Il nous demande de mettre la vérité à nos reins. Il nous demande que nous soyons attachés à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Qu'il n'y ait rien d'autre qui soit prêché ici que la parole de Dieu. C'est-à-dire que nos cœurs, et quand je dis ici, ce n'est pas seulement ici le dimanche matin, c'est aussi chez nous, c'est aussi par notre comportement, c'est aussi dans la vie de tous les jours autour de nous, que ce soit la parole de vérité qui soit attachée à notre personne, qu'il n'y ait rien d'autre, pas des raisonnements humains, pas des idéologies, pas des façons de voir, pas une doctrine, n'est-ce pas, qui soit attachée, même si cette doctrine est vraie. Le Seigneur n'a pas dit de mettre à ses reins une doctrine exacte, une doctrine juste, une doctrine évangélique, une doctrine biblique. Il a demandé que l'on mette la ceinture, n'est-ce pas, de la vérité. Et c'est ça que nous devons avoir. Nous devons avoir la parole de Dieu attachée à notre corps, attachée à notre façon d'être. Pas pour discuter, pas pour contredire, pas pour argumenter, n'est-ce pas? Il y a quelque chose dans un passage dans 1 Corinthiens chapitre 2 qui est très important selon moi, qui décrit naturellement, l'apôtre Paul décrit naturellement ce qu'il a vécu. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 4. Ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit, d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et on peut aller vers les gens et essayer d'argumenter, leur dire, voyez, moi j'ai raison, vous êtes dans l'erreur, moi j'ai la vérité. On trouve ça dans les milieux évangéliques, que tel type d'église dit qu'eux, ils ont la perception exacte de ce qu'est la vérité, de ce que la Bible enseigne. Et telle autre église qui dit, moi j'ai la perception exacte, nous avons la perception exacte, etc. Mais cela, ça se passe quand il n'y a pas la puissance de Dieu. Ça se passe parce que la vérité a disparu, parce qu'on a laissé la ceinture de la vérité à un endroit, n'est-ce pas ? De quelque part, on l'a laissé derrière nous. Et Dieu veut que nous ayons cette ceinture de la parole de Dieu, qui va entraîner une démonstration de puissance, n'est-ce pas ? Si quelqu'un vient dans l'église ici ce matin, pour la première fois, et qu'il recherche, qu'il essaye de voir en disant « mais je vais voir ce que cette église a enseigné », qu'est-ce que cette église a de particulier ? Pourquoi cette église ? Pourquoi pas l'église catholique ? Pourquoi pas un autre mouvement sectaire, etc. ? Pourquoi cette église ? Qu'est-ce qu'elle a à donner ? Eh bien, si nous n'avons pas à donner la parole de Dieu, si nous n'avons pas la puissance de Dieu dans les vies manifestées, s'il n'y a pas un témoignage qui sort de nos vies, n'est-ce pas ? Quand nous accueillons les personnes, quand nous les recevons dans l'église, quand nous prêchons, quand nous parlons, quand nous chantons, quand nous prions, s'il n'y a pas ça, eh bien, on n'a pas la démonstration de la puissance de Dieu, parce que c'est ça les armes que Dieu nous donne. Et il nous donne cette possibilité de pouvoir toucher, renverser des forteresses. Combien de gens ont eu des forteresses renversées en un seul instant quand ils sont rentrés dans une église parce qu'il y avait la parole de Dieu qui leur a été annoncée. La parole de Dieu qui touchait à un point précis de leur cœur. C'est ça qu'on doit désirer, n'est-ce pas ? Et si on vient tous le dimanche matin, si on vient tous en disant « voilà Seigneur, utilise-moi ce matin », pas pour « j'ai besoin d'être béni, j'ai besoin qu'il y ait une parole qui me parle », c'est bien de dire ça. Mais utilise-moi pour que je sois une bénédiction pour les autres. Utilise-moi pour que je puisse être la puissance, la démonstration de la puissance de Dieu. C'est là où les églises changent. C'est là où on commence à voir des choses, des gens qui se convertissent, des systèmes, comme on l'a lu dans 2 Corinthiens 10, des systèmes qui sont renversés, des gens qui viennent avec des systèmes de pensée déjà construits, qui viennent pour prouver que vous avez tort et qui sont touchés par la grâce de Dieu. J'ai entendu des témoignages de ça, de gens qui étaient venus pour faire du mal, pour perturber des réunions. J'ai 2 témoignages au moins que j'ai entendus de ça. Et ils ont été touchés par la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui les a touchés avant qu'ils puissent toucher les chrétiens. Et ça, c'est parce qu'il y avait les armes de Dieu. C'est-à-dire que les gens qui étaient réunis, ils avaient les armes dont il est question dans 2 Corinthiens chapitre 10. Ils avaient la présence de Dieu. Et voilà que Simon-Pierre, donc, on lui demande, l'ange lui demande de mettre sa ceinture et ses sandales. Je pense aussi que l'ange était tout simplement prévoyant et il ne voulait pas que Pierre rentre à la maison en ayant disant « mince, ma ceinture, je l'ai oubliée dans la prison ». Et voilà, il lui dit aussi au verset 8 « enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Et le manteau que Pierre a pris, c'était son manteau, n'est-ce pas, celui qu'il avait sur lui quand il s'est fait arrêter, mais c'est aussi quelque chose qui doit être, on doit être revêtu d'un manteau, n'est-ce pas ? Dans Ésaïe 61, la fin de Ésaïe 61, il est question, le prophète dit, tu m'as revêtu du manteau de la délivrance. Et là, je vous assure que quand Pierre a mis ce manteau-là, bon, il croyait avoir une vision, mais en fait, il devait être heureux, parce que quand on a une vision, on est heureux, on vit comme si on était dans la réalité, n'est-ce pas, en fait ? Voilà, donc il devait être très heureux de revêtir son manteau, et c'était le manteau de la délivrance. Est-ce que ce matin, nous sommes revêtus du manteau de la délivrance ? Est-ce qu'on peut dire, voilà, je suis délivré ? Vous savez que quand vous avez ce manteau, vous avez une arme. Vous avez une arme puissante. Quand vous avez la vérité, vous avez une arme puissante. Pas pour faire du mal, mais pour faire du bien, pour bénir. Vous avez une arme qui peut renverser des systèmes, qui peut renverser les puissances, les autorités, les dominations. Et est-ce qu'on va vers les gens avec ce manteau de la délivrance ? Est-ce qu'on va avec les vêtements du salut, comme il est dit dans Ésaïe 61 ? Est-ce que c'est le genre de vêtements que l'on a ? Ou est-ce que c'est encore les vêtements de notre propre justice, qui est mentionné dans Isaïe 64, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et vous savez, quelquefois, on a compris intellectuellement que Dieu est notre justice. On a compris intellectuellement que Dieu nous a justifiés par Jésus-Christ sur la croix. Et ça, on peut le réciter, on peut le dire, on peut le prêcher. Mais est-ce qu'on l'a vécu à l'intérieur ? Que ma propre justice, tout ce que je fais de bien, même encore aujourd'hui, tout ce que j'ai fait de bien, ça n'a aucune valeur devant Dieu. Ce qui a une valeur devant Dieu, c'est le salut qu'il nous a donné, c'est la cuirasse de la justice. C'est le manteau de la délivrance. Et si vous allez avec cette cuirasse de la justice, n'est-ce pas, devant les gens, eh bien, ils savent qu'il y a quelque chose qu'ils ne pourront jamais toucher. Et Hérode le savait. Il savait que chez Pierre, il ne pouvait rien faire. Il savait que tout ce qu'il pouvait réussir à faire, c'est faire taire Pierre. Et il espérait encore, il craignait que ce ne soit pas le cas, puisqu'il a mis 16 soldats pour le garder. Mais il savait qu'au fond, il ne pouvait pas toucher Pierre dans les profondeurs. Il savait qu'il ne pouvait pas toucher les chrétiens dans les profondeurs parce qu'il savait qu'ils étaient revêtus d'une cuirasse que lui n'avait pas, que lui ne connaissait pas. Et c'est ça qui va travailler les esprits. Vous savez que Hérode devait être travaillé dans son cœur, il devait être travaillé, tourmenté. Pierre dormait dans la prison, mais il n'est pas dit ce que Hérode faisait. Mais je garantis qu'Hérode n'avait pas fermé l'œil de la nuit. En disant, qu'est-ce qui va encore m'arriver ? Qu'est-ce qui va encore arriver avec Pierre ? Qu'est-ce que Dieu va faire pour lui ? On va voir qu'il avait un peu plus la foi que les chrétiens qui priaient pour Pierre. Mais on va venir là-dessus tout à l'heure. Mais voyez le manteau de la délivrance. Et l'ange a dit à Pierre, remets ton manteau. Et ce matin, mettez le manteau de la délivrance. Mettez le manteau du salut. Et ça se fait chez soi, n'est-ce pas, demandant « Seigneur, revêt-moi de ça ». Et quand on voit quelqu'un qui est sauvé devant soi, quand on voit quelqu'un qui est sauvé, il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas parler. Les gens vont venir pour vous donner 4-5 arguments contre la foi chrétienne, mais quand ils voient que quelqu'un est transformé, n'est-ce pas ? Et quelquefois, je me dis que peut-être plutôt qu'un texte, quelquefois, qu'on pourrait donner, plutôt qu'une prédication sur ce que c'est l'Évangile, on devrait juste demander « Allez, telle personne qui a été sauvée réellement puisse venir rendre témoignage. » Et on sent quand c'est vrai, n'est-ce pas ? Il y a des témoignages qui sonnent faux, mais il y a des témoignages qui sonnent vrais. Il y a des témoignages de vie, il y a les gens qui sont transformés radicalement et les gens qui les connaissaient avant disent « Mais c'est pas possible, j'ai pas d'explication à ça. » Le problème, c'est que dans nos églises, et je vise pas du tout quelqu'un, je parle pour moi-même, on a des gens très peu transformés, qui ont un tout petit manteau de salut ou à peine visible, n'est-ce pas, ou transparent, n'est-ce pas. Et il n'y a pas beaucoup de changements entre avant et après. Et ils sont obligés d'avoir une doctrine très solide en disant « Le Seigneur m'a sauvé parce que j'ai donné ma vie un jour, donc logiquement, selon la parole, j'ai la preuve que la parole dit que donc je suis sauvé. » Parce qu'il n'y a pas la preuve qui témoigne de leur vie, parce que dans nos vies, il n'y a pas les collègues de travail, parce qu'il n'y a pas à la maison le témoignage qui monte en disant « Mais c'est évident que cette personne est sauvée, c'est évident, c'est le témoignage. » Ils sont revêtus des vêtements du salut, ils sont revêtus des vêtements de la délivrance. Et là, en tout cas, Simon-Pierre, il avait cette expérience. Il ne l'avait pas avant. Il ne l'avait pas avant la Pentecôte. Ce n'était pas le même homme. Cet homme qui même n'arrivait pas à s'identifier à son plus grand ami Jésus-Christ. Au moment où Jésus était crucifié, là vous avez un homme qui est en train de dormir en prison, comme Jésus dormait dans le bateau quand il y avait la tempête. Et voilà que Simon-Pierre est libéré. Il se rend compte seulement quand il quitte la ville que c'était vrai, que ce n'était pas une vision. Il faut se mettre à sa place. Je veux dire, ce genre de choses extraordinaires, n'est-ce pas, qui se passaient. Mais je me dis aussi, la puissance, voyez, d'un gouvernement ici qui voulait museler la parole de Dieu. La puissance des autorités qui voulaient interrompre l'évangile. Combien de systèmes se sont opposés à la parole de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Et une démarche intelligente serait de faire une étude historique de tous ces systèmes-là et de voir quelle a été leur fin. Tous ces systèmes sont tombés. Ce qui veut dire que si un système politique s'élève contre Dieu, s'élève contre la parole de Dieu, on sait une chose sûre, parce que c'est une loi historique, que un jour ou l'autre, ces systèmes vont s'effondrer. Mais on ne va pas faire appel à un système intelligent. On ne va pas faire appel à un système qui va utiliser le raisonnement. Il faut utiliser la démonstration de l'Esprit de Dieu. Il faut utiliser les armes de l'Esprit. Les armes de l'Esprit sont la vérité pour ceinture. C'est la cuirasse de la justice. C'est le manteau, n'est-ce pas, de la délivrance. C'est ces vêtements du salut. Et c'est ça qui change une nation. C'est ça qui change un pays. C'est ça qui change l'environnement. C'est quand les gens disent, mais je sais que ce sont des gens qui m'agacent, n'est-ce pas ? Si vous entendez parler de certains athées, il y a un athée célèbre en Grande-Bretagne qui est très important sur le plan intellectuel. Mais quand il commence à parler des chrétiens, quand il commence à parler de Dieu, il s'énerve, il s'irrite, n'est-ce pas ? Parce que les chrétiens l'irritent. Et ça, c'est probablement parce qu'il a connu, il a rencontré des vrais chrétiens. Et il y a quelque chose d'irritant pour eux, pour lui, parce que il sait qu'il y a une puissance. Hérode avait cette même, probablement, attitude à l'égard des chrétiens. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Elle est libre. Et puis, Simon-Pierre était libéré. Et voyez que l'Église, réunie dans la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, les chrétiens étaient là, réunis en prière. L'Église, il est dit, intercéder pour Pierre. Voilà une autre arme que nous avons. Elle n'est pas mentionnée dans Éphésiens 6, mais elle est là-dedans, inévitablement. Mais dans Éphésiens 6, il y a, ici, dans ce passage, il y a l'arme de la prière qui est utilisée. Et ça, la prière a une grande efficace, n'est-ce pas ? Mais la prière du juste, de celui qui est revêtu de la cuirasse de la justice, a une grande efficacité. Et vous savez pourquoi le mur de Berlin est tombé, la forteresse du bloc de l'Est est tombée. Un système qui s'élevait contre Dieu, un système qui avait aussi, comme Hérode, décidé de museler les chrétiens, mais un système qui a fait qu'il a fait de la sélection naturelle. Vous savez que dans la nature, les hivers rudes sont très bénéfiques aux arbres, parce que ça sélectionne tout ce qui est fragile dans l'arbre qui meurt, et l'arbre, au printemps, n'a que ce qui est fort en lui qui est resté. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Et ce que ces régimes ont fait, tous ces systèmes, ces idéologies, ils ont sélectionné ce qui était faible, dans le sens ceux qui n'étaient pas les vrais chrétiens, ceux qui ne connaissaient pas vraiment Christ, qui n'étaient pas attachés à Dieu. Et ils ont fait de l'Église une Église forte. C'est une Église qui a prié, incitée essentiellement par leur situation. Et l'Occident qui a prié sous l'inspiration, bien sûr, du frère André qui a généré ce mouvement de prière dans le monde libre. Et voilà que le mur de Berlin un jour tombe, le bloc de l'Est, le rideau de fer, comme on disait, est tombé. Les forteresses sont tombées. Et c'est la puissance de Dieu qui fait ça. C'est des armes invisibles. C'est des armes que l'on ne peut pas redouter a priori parce qu'elles sont pas fortes, elles sont méprisables, mais sont des armes efficaces qui font changer les choses. Et l'Église ici avait la prière et ils ont prié ardemment, ils ne cessaient de prier pour Pierre. Seigneur, que ta parole ne soit pas liée. Pierre, pour nous, c'est un homme important, c'est l'apôtre, c'est notre apôtre. Il faut qu'il soit utilisé par Dieu. Comment le système peut-il museler quelqu'un qui prêche si bien ta parole, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui a reçu de Dieu cette puissance pour guérir les malades, pour relever ceux qui sont courbés et pour amener au salut, n'est-ce pas ? Et l'Église est en train de prier. Et Dieu fait le miracle. L'Église continue à prier, ne sachant pas quel miracle. Et Simon-Pierre réfléchit en sortant de sa prison, il dit « Où est-ce que je vais aller ?» Et donc il dit, je vais aller chez Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, parce que là, il y a souvent des réunions de prière qui ont le lieu. Et voilà qu'il tape à la porte. Et la servante qui s'appelle Rhode entend que c'est Pierre. Elle va à la porte pour voir qui c'est. Et je suppose qu'il a dit « C'est moi, c'est Pierre !» Et donc, elle n'ouvre pas, elle n'ouvre pas. Elle va dire aux autres « Simon Pierre, il est à la porte. » Et ils lui disent « Tu es folle. » Oh, l'Église qui prie. « Tu es folle de croire que Dieu a exaucé nos prières. » Pourquoi on prie? En fait, on prie, mais on ne pense pas que Dieu va le faire. On ne pense pas que Dieu va répondre à nos prières. On intercède quelquefois dans des situations, mais si on nous dit que c'est exaucé, on dit « tu dois être fou si tu crois que Dieu exauce les prières ». Et ça, c'est les chrétiens. En fait, je garantis qu'Hérode, dans sa chambre, redoutait le moment. Et quand on lui a dit que Simon-Pierre était relâché, je garantis qu'il n'avait aucune surprise, parce qu'il redoutait la puissance de Dieu. Parce qu'il savait que Dieu allait le faire, certainement, un truc, quelque chose comme ça. Mais les chrétiens étaient en train de dire « tu es folle ». Et en fait, finalement, comme il insistait, elle a ouvert la porte. Et alors ils ont dit « c'est son ange ». Et je me rappelle Blaise qui a dit il y a longtemps, il a dit « les chrétiens croient plutôt aux anges qu'à la puissance de Dieu ». Et ils ont cru que c'était une apparition. N'est-ce pas? Et le christianisme, dans les siècles qui ont suivi, sont beaucoup plus attachés à des apparitions qu'à la parole de Dieu et à la promesse de Dieu. Mais ils ont finalement vu que Dieu a répondu. Et vous savez que là, ils avaient une arme. Ils se sont rendus compte que l'arme qui a renversé, qui a cassé les chaînes qui se trouvaient, qui liaient Simon-Pierre, qui a endormi les gardes, qui a ouvert la porte de la prison, qui a ouvert la porte de la ville, etc. Eh bien, c'était une arme extraordinaire qu'aucun homme ne peut posséder de manière naturelle. C'est l'arme de la prière. Est-ce que on veut cela? Est-ce qu'on veut remporter des victoires? Vous savez que Simon-Pierre aurait pu dire non à l'ange. Je suis gardé, tu vois bien qu'il y en a 16 qui sont en train de me garder. Tu vois bien que la porte est fermée. Tu vois bien que je suis en prison. À quoi ça sert une prison si on peut sortir comme on veut? Mais il a accepté, il s'est levé promptement. Est-ce que ce matin on veut se lever promptement? Est-ce qu'on veut dire, Seigneur, de ma situation de chrétien, de vieux chrétien, de vieille chrétienne, je veux me lever promptement parce que j'ai été lié, parce que j'ai été mise ou mis dans une prison. Et la prison, je ne vais pas décrire le style de prison, mais il y a un Hérode qui vous a mis en prison un jour, qui a décidé, qui savait très bien quelle était la puissance de Dieu, qui redoutait que Dieu vous délivre, mais qui vous a mis dans une prison et qui essaye de vous faire croire ou qui essaie jusqu'à la dernière minute d'empêcher que vous leviez promptement, que vous saisissiez la ceinture que Dieu vous donne l'ordre de mettre. Il veut que vous ne mettiez pas les sandales du zèle de l'évangile de paix et il veut que vous restiez assis à dormir dans la prison en disant « je ne peux pas sortir ». Mais Dieu vous ouvre la porte, Dieu nous ouvre la porte. Je voudrais que vraiment on puisse en tant qu'Église se lever promptement, pouvoir écouter à la parole de Dieu, entendre la parole de Dieu et puis être revêtu de tout ce que Dieu veut nous donner, de pouvoir sortir des prisons qui nous lient, qui nous empêchent. Et ça veut dire qu'il y avait un pas à faire de la part de Simon-Pierre. Il a fallu qu'il obéisse, il a fallu qu'il fasse ce que Dieu lui a dit de faire. Et ces armes-là sont terriblement redoutables. Alors on ne doit pas les désirer parce qu'elles sont redoutables pour les autorités, parce qu'elles ne le sont pas encore, parce que les autorités en France ne savent pas ce que c'est la puissance de Dieu. On ne peut pas les blâmer de prendre des décisions comme ils prennent. Ils n'ont pas de démonstration de puissance devant eux. Tout ce qui est décrit sous l'étiquette de christianisme démontre l'absence de puissance. Donc le christianisme ne fait pas peur. Mais il faut que les hommes et les femmes, il faut que les chrétiens se vivent une vie de sainteté et que, en proclamant la vérité, en restant fidèles à la vérité, ce soit connu qu'il y a des chrétiens qui sont dangereux, qu'il y a des chrétiens qui ont des armes que l'on ne connaît pas et contre lesquelles on ne peut rien. Vous savez qu'Hérode, dans ce même chapitre à la fin, est mort, rongé des vers, parce qu'il n'a pas voulu céder. Il n'y a aucun système qui tient. Il n'y a aucun système qui a tenu. Aucune idéologie qui a tenu dans l'histoire contre les armes dont il est question dans Éphésiens 6 et dans 2 Corinthiens chapitre 10. Mais j'aimerais prendre un autre récit. J'ai déjà fait une prédication là-dessus, mais je voudrais juste résumer et le mettre comme deuxième histoire. Parce que bien sûr, quand on lit ça dans 2 Corinthiens 10, que ça renverse les raisonnements et les forteresses, n'est-ce pas, on pense à cette situation de l'Ancien Testament avec la ville de Jéricho, évidemment. Mais vous savez que là, littéralement dans l'histoire, et Dieu mettait là des symboles dans l'histoire d'Israël pour que l'on comprenne que c'est une vérité qui s'applique dans la vie chrétienne aujourd'hui. C'est-à-dire que les événements qui se sont réellement passés dans le peuple d'Israël, dans l'histoire, eh bien ce sont des représentations de ce que Dieu veut faire spirituellement à l'intérieur de son peuple, à l'intérieur de nos vies. D'accord ? C'est ça le peuple de Dieu aussi, c'est nos vies personnelles, c'est l'Église qui est un ensemble d'individus, mais qui est aussi chaque individu qui aime le Seigneur. Et Dieu veut faire ces choses miraculeuses. Vous savez que c'est pour ça qu'il y a les massacres dans l'Ancien Testament. C'est parce que Dieu veut que l'on ait cette attitude à l'intérieur de nos vies. Il veut qu'on leur massacre tout ce qui est païen, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'appartient pas à Dieu, il veut qu'on extermine. Et tout ce qui est dans l'Ancien Testament a un sens spirituel prophétique pour la vie spirituelle. C'était en prévision de ce qui allait se passer. Ce n'est pas que Jésus est venu parce que c'est une idée que Dieu a eue au moment, à la fin de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, en disant ben, « il ne me reste plus que ça ». C'était prévu avant la fondation du monde que Jésus viendrait. Et tout ça a été écrit dans l'Ancien Testament quand on lit les événements. Et le peuple était une armée puissante, mais redoutable. Parce que les gens savaient, n'est-ce pas, en Jéricho, le roi savait, le roi de Jéricho, c'est Rahab qui a dit ça hein, aux espions, qu'ils savaient quelle était la puissance. Ils avaient entendu parler du témoignage. Ce n'est pas qu'on a entendu un discours sur Dieu, parce que les discours ne font pas peur, n'est-ce pas? Les discours sur Dieu n'ont aucune puissance. C'est la vie transformée, c'est les vies transformées, c'est les miracles que Dieu fait, les démonstrations de puissance, n'est-ce pas? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu. Et c'est ça la foi, n'est-ce pas? La foi, c'est une arme de l'esprit, c'est le bouclier de la foi. Et c'est la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et Jéricho avait reçu des démonstrations de la puissance de Dieu qu'il ne connaissait pas et d'un peuple d'Israël qu'il ne connaissait pas. Mais ils avaient entendu les nouvelles, ils avaient entendu les échos. Et ils ont vu qu'on ne rigole pas avec le peuple d'Israël. Alors évidemment, il y avait une forteresse là. Et tout le peuple de Jéricho s'est réfugié derrière cette forteresse. Parce que cette forteresse, même un peuple nombreux ne pouvait pas la renverser. Et voilà les systèmes qui sont créés. Des systèmes qui sont bien faits. Et quand un système est bien fait, tous les chrétiens du monde ne pourraient pas renverser cette forteresse. Elle est solide, elle tient la route, elle est costaud. Et tous les chrétiens du monde ne pourraient pas, en tant qu'individus. Il n'y a pas de force qui pourrait détruire cette forteresse. Et c'est ce que probablement le roi de Jéricho pensait. En tout cas, il n'y a pas moyen qu'ils nous attaquent. Nous, on sera épargnés. Peut-être Haï, à côté, leur forteresse, elle est moins forte. On les plaint, mais on ne va pas les aider. Mais nous, en tout cas, ça devrait aller. Et voilà ce que Dieu demande. Il demande au peuple d'utiliser les armes spirituelles, pas les armes telles qu'on les comprend d'habitude. Il demande au peuple de tourner autour de la ville, de tourner autour de la ville. Ce n'est pas quelque chose que Dieu demande à faire, c'est-à-dire ce n'est pas un procédé magique, ce n'est pas un procédé qui nous demande à faire littéralement tourner autour de la ville d'Hazebrouck. Il faudrait déjà pas mal de kilomètres, ça fait pas mal de kilomètres, ça nous ferait du bien. de le faire en footing, par exemple, pour certains d'entre nous. Mais ce n'est pas ça que Dieu demande. Ce n'est pas une technique. Ce n'est pas un procédé. Ce n'est pas une méthode. Certains évangéliques l'utilisent comme une méthode pour évangéliser. Mais c'est pas ça. C'était spécifiquement demandé, parce qu'il n'y avait pas de moyen, je pense, autrement, de toute façon, d'attaquer. Donc il a demandé qu'il fasse le tour de la ville. Et il y avait dans le cœur des gens obligatoirement la foi que Dieu allait intervenir. Mais il y avait aussi du ridicule, n'est-ce pas? Et si vous regardez dans Hébreux 11, ceux qui sont décrits comme les hommes et les femmes de la foi, eh bien, ce sont des gens qui ont été prêts au ridicule. Il y a Noé, il y a Abraham, n'est-ce pas, parmi d'autres, il y a Sarah qui est mentionnée, elle était ridiculisée d'accepter d'avoir un enfant à son âge. C'est pour ça qu'elle a appelé son fils Rire, parce que les gens riront de lui et de elle. Mais les gens ont accepté d'être sous le ridicule en tournant dans la ville. Mais sincèrement, vous imaginez-vous une armée qui attaque en tournant autour? Il y a beaucoup de systèmes qui tournent autour du pot et qui n'arrivent à rien, ils retournent autour, mais ce n'est pas de ça dont il est question. Ils tournaient autour. Et les gens dans la ville de Jéricho devaient dire qu'ils sont fous. Mais ils avaient les armes qui étaient la foi. Si Dieu nous a dit de faire, alors nous le faisons même si nous ne voyons pas le résultat, nous ne comprenons pas pourquoi. Qu'est-ce qui va se passer? On va le voir. On va voir. Mais j'aimerais dire qu'ils avaient trois armes terribles. Ils avaient ce qui était dans l'Arche de l'Alliance, n'est-ce pas? Les trois éléments qui étaient dans l'Arche de l'Alliance. Il y avait la manne, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et il y avait aussi les commandements de Dieu, les tables de la loi. Et ils avaient ces trois armes qui étaient des armes secrètes, n'est-ce pas, qui étaient dans l'Arche de l'Alliance. Et l'Arche de l'Alliance devait marcher autour, devait aussi être portée autour de la ville de Jéricho. Et je me demande, et pour terminer, je vais demander ça, est-ce que nous avons ces armes? Il y a beaucoup d'autres armes. Vous voyez, dans Éphésiens 6, il y en a plein qu'on n'a pas mentionné. Vous les trouvez vous-même, vous cherchez. Mais il y avait trois armes. La manne. Et la manne dans Jean chapitre 6, qui est descendue du ciel, c'est Jésus-Christ. Si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, les forteresses, les systèmes qui sont dressés vont tomber parce que vous avez la présence de Jésus-Christ dans vos vies. Et personne ne peut rien contre ça. Personne ne peut atteindre cette personne de Jésus-Christ si vous l'avez dans votre vie. Et c'est lui le pain du ciel qui a été donné. Là encore, la manne qui était donnée dans le désert n'était qu'un symbole. Bien sûr, ça nourrissait le peuple. Mais c'était aussi un symbole de celui qui allait dire « Je suis le pain de vie ». C'était une représentation d'un sens profond spirituel qui allait se révéler en Jésus-Christ. Est-ce que nous avons le pain de vie? Est-ce que nous avons la parole de Dieu qui nous nourrit, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes nourris de la parole de Dieu et de seulement de la parole de Dieu dans nos vies? L'autre arme qu'ils avaient, c'était les commandements. Ils obéissaient à la loi de Dieu. Ils obéissaient à la volonté de Dieu. Et ça, ces lois qui sont gravées par le Saint-Esprit dans nos cœurs, nous devons les obéir. Pas par obligation, pas parce que c'est dicté par une loi extérieure, mais c'est dicté par ce qui est écrit dans le cœur. Oui, je veux t'obéir, je veux faire ta volonté. N'est-ce pas? Qui est-ce qui a dit ça? Je veux faire ta volonté, ô Dieu, et ta loi est écrite au fond de mon cœur. C'est David, n'est-ce pas? Ta volonté est écrite dans mon cœur. Je veux faire ta volonté, ô Dieu. C'est le désir des hommes et des femmes qui ont reçu cette écriture des lois de Dieu dans nos vies. Eh bien, si vous avez les commandements de Dieu dans vos vies, il y a quelque chose qui va faire que le monde reconnaît que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils vont reconnaître que Dieu a fait quelque chose et qu'il a inscrit une loi qu'ils ne connaissent pas dans leur vie. Donc, les commandements de Dieu. Et le bâton d'Aaron, et pourquoi ce bâton d'Aaron était mis dans l'arche? Parce que Dieu l'avait commandé. Il avait dit, vous mettrez ce bâton d'Aaron qui avait fleuri. Et ce bâton, c'était le témoignage que d'un miracle extraordinaire. Parce qu'un bâton, c'est du bois mort, n'est-ce pas ? Et du bois mort ne peut pas, de ce qui est mort, il ne peut pas y avoir la vie. Et quand le peuple a contesté, n'est-ce pas, l'autorité de Moïse et d'Aaron notamment, eh bien Dieu a dit, eh bien voilà, mettez un bâton et je vais montrer que c'est Aaron que j'ai choisi. Et donc la verge d'Aaron a fleuri. Et c'est ça le témoignage dans les vies, c'est une arme terrible. Quand on peut, pour les autres, quand on peut montrer qu'on était mort. Vous savez, j'étais mort. Et regardez la vie qui est née en moi. Et regardez ce témoignage du miracle impossible. Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est quelque chose qui renverse. C'est quelque chose qui touche. C'est quelque chose qui va agir. C'est le désir de nos cœurs, c'est le désir de Daniel, c'est le désir de mon cœur que dans cette église, il y ait chaque dimanche matin, mais aussi la semaine, mais surtout le dimanche matin, on vienne dans le cœur avec ce désir que Dieu parle et que la puissance de Dieu soit là. Que s'il n'y a même pas de discours, ce n'est pas grave qu'il y ait la puissance de Dieu qui soit démontrée. Dans des églises où il y a l'œuvre de Dieu qui se manifeste, n'est-ce pas ? Il n'y a souvent pas de prédication parce que le prédicateur est trop ému pour parler et parce que de toute façon, ça serait indécent de parler tellement Dieu est à l'œuvre. Et vous savez, dans l'histoire, combien de gens ont connu ces genres de situations et pourquoi nous, on ne pourrait pas connaître ça ? Et je le crois vraiment, on croit vraiment que c'est possible que Dieu fasse ça. Et là, les gens qui rentrent, n'est-ce pas, sont touchés avant même d'écouter une prédication, avant même d'entendre un témoignage, une exhortation, etc. Ils sont touchés. Je me rappelle ce pasteur que je connaissais, qui était un homme de Dieu qui a été utilisé. Il est rentré dans une église pour faire plaisir à sa sœur qui s'est convertie et qui se faisait baptiser. Donc sa sœur lui a dit... Est-ce que tu peux venir à mon baptême ? Donc, pour lui faire plaisir, il est venu en retard parce que c'était certainement très difficile pour lui de rentrer dans l'église. Et le chant disait « J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux. » N'est-ce pas ? C'est un vieux chant. Il y a plusieurs qui le connaissent peut-être. Et juste quand il est rentré, il a entendu. Et sa sœur avait prié pour lui. Sa sœur avait prié qu'il soit touché et l'Esprit de Dieu l'a touché en rentrant. C'est ça la puissance de Dieu, c'est ça qu'on doit avoir. C'est ça qu'on doit avoir dans notre Église. On ne doit pas avoir des discours persuasifs. On doit avoir la démonstration de la puissance de Dieu, sans parole. Et l'avantage, c'est que cet homme n'a pas dit, voilà, j'ai été influencé par la prédication d'un tel. Il a été influencé par la puissance de Dieu. Il a été utilisé, c'est Ephraim Ferris, pour ceux qui l'ont connu, c'est un pasteur de Pentecôte, qui a été vraiment utilisé énormément. Il est vieux maintenant. Mais c'était le témoignage de cet homme. Et ça peut être le témoignage de beaucoup de gens à Hasbrouck si la puissance de Dieu agit. Amen.